la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Matthieu pour le premier dimanche de l'Avent.
En effet, comme ont été les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En effet, de même qu'en ces jours d'avant le déluge, on mangeait et on buvait, on se mariait et on était mariés, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils n'ont rien connu jusqu'à la venue du déluge et il les a tous emportés. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux seront au champ, un sera pris et l'autre laissé. Deux seront à moudre à la meule, une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne connaissez pas quel jour votre Seigneur vient. Vous savez cela, si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur vient, il aurait veillé et il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, soyez prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme vient. Eh bien, André, bonjour et bonne année à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices.
Ben, bonjour, Georges. Mais pourquoi souhaiter une bonne année? Nous ne sommes pas encore au premier de l'an, tout de même.
Eh bien oui, nous sommes au premier de l'an, mais le premier de l'an, pour les chrétiens, c'est en effet aujourd'hui le premier dimanche de l'année liturgique. Alors qu'est-ce que c'est que l'année liturgique? Eh bien, tout au long de l'année, les célébrations dominicales nous font comme revivre la vie de Jésus depuis sa première venue en ce monde, lors de sa naissance, et c'est donc le temps de l'Avent, Noël et l'Épiphanie, en passant par sa vie, ce sera le temps ordinaire, sa mort et sa résurrection, c'est la Semaine Sainte, Pâques et la Pentecôte, jusqu'à l'attente de son retour à la fin des temps. Et le mot « avant » ici n'est pas l'adverbe qui signifie le contraire de « après ».« Avant » s'écrit ici avec un « e » et non pas avec un « a », et il traduit le mot latin « adventus » qui veut dire « avènement, la venue ». Il s'agit donc de la venue du Christ, du Fils de l'homme.
Où se trouve ce texte dans l'Évangile de Matthieu?
Eh bien, en effet, nous sommes dans l'Évangile de Matthieu. L'année dernière, nous avons parcouru tout le récit de Luc. L'an prochain, ce sera celui de Marc. Et cette année liturgique qui commence aujourd'hui va nous faire parcourir le récit de Matthieu. Dans le récit de ces trois évangiles, Matthieu, Luc et Marc, les derniers chapitres parlent en effet de la fin des temps. Nous sommes là au chapitre 24, et les chapitres 24 et 25 de Matthieu sont consacrés aux réponses de Jésus à ses disciples. Ceux-ci lui ont posé la question « Quel sera le signe de ta venue glorieuse et d'un achèvement du monde ?» Eh bien, Jésus a commencé par décrire les signes d'une nouvelle naissance du monde. Oh, ce ne sera pas une nouvelle naissance qui se fera dans la facilité, ce sera plutôt les douleurs de l'enfantement. Et ces douleurs de l'enfantement, bien, Jésus les décrit, ce seront des conflits, des persécutions, des faux prophètes qui essaieront d'égarer les gens. De plus, l'Évangile ne sera pas réservé seulement à Israël, au peuple de Dieu, mais il sera proclamé à l'univers entier. Et à la fin, eh bien, le Fils de l'homme viendra sur les nuées du ciel avec grande puissance et gloire, comme le dit le verset 30 du chapitre 24.
Que signifie cette venue glorieuse de Jésus?
Oui, ces chapitres 24 et 25 ne sont pas très faciles. Alors essayons de préciser le sens de cette image, la venue glorieuse du Fils de l'homme. L'expression est sans doute tirée du livre de Daniel au chapitre 7. Ce sont les versets 13 et 14 que nous pouvons écouter.
Voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un fils d'homme. Il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté. Les gens de tout peuple, nation et langue le servaient.
Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, le livre de Daniel date des années 90 avant Jésus. C'est un livre qui se classe dans la catégorie de ce qu'on appelle les apocalypses. Alors, apocalypse, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le mot signifie dévoilement. C'est donc un récit qui veut dévoiler, révéler le sens des événements à la fois passés, mais surtout des événements qu'on espère voir venir, mais on le fait en employant un langage figuré, afin que ce récit ne soit compris que par des initiés. Alors pourquoi? Eh bien, c'est parce que ces apocalypses voient souvent le jour dans des périodes de persécution. Quand on est persécuté, eh bien, on a besoin de recevoir un message, et un message qui va nous redonner de l'espoir. Mais il ne faut pas que ce message soit compris de l'ennemi. Alors on emploie un message codé, on l'a vu très bien pendant la dernière Grande Guerre mondiale, où les alliés qui étaient basés en Angleterre envoyaient aux Français résistants qui se trouvaient en France, on appelait ça les FFI, les Forces Françaises de l'Intérieur, mais ils leur envoyaient des messages codés. Un de ces messages fameux, c'était « les carottes sont cuites ». Eh bien ici, Daniel, lui, parle de vision où se trouvent quatre bêtes monstrueuses. Et dans la fin de la vision, il s'agit là d'un personnage qui a forme humaine. Alors, quelles sont ces quatre bêtes monstrueuses? Ben, ce sont les quatre empires qui ont conquis et dominé le peuple d'Israël des années 600 avant Jésus jusqu'aux années 100. D'abord, ça a été Babylone avec le grand roi Nabucodonosor, puis ça a été les Mèdes avec Darius, puis les Perses avec Cyrus, et enfin les Grecs avec Alexandre. Et tous ces empires ont soit déporté le peuple de Dieu ou l'ont tenu en esclavage. Eh bien, Daniel dit, va venir un fils d'homme qui se verra confier la royauté au nom de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le fond? Eh bien, au-delà de ces images qui peuvent nous paraître un peu obscures, c'est dans le fond l'éternelle espérance de l'humanité qui se retrouve là. L'espérance de voir un jour le mal disparaître de la terre, de voir le bonheur revenir, la justice revenir. Non seulement on va retrouver la liberté, mais cette liberté va être pour tous et elle durera toujours. Alors dans la Bible, on parle pour ce jour-là du jour du Seigneur, ou même de temps en temps on trouve le jour de la colère de Dieu. Au début de ce siècle, on a vu, j'allais dire, un juif comme Marx laïciser cette espérance. Lui, il disait, non pas le fils de l'homme va venir, mais le parti communiste va venir, et il y aura un grand soir, et ce grand soir, ce sera la libération de tous les opprimés, prolétaires de tous les pays, unissez-vous pour retrouver la justice et la liberté. Eh bien, voilà un peu comment ce jour du Seigneur exprime cette espérance de toute l'humanité depuis toujours, de voir ce Dieu en quel l'humanité, ou certains de l'humanité croient, intervenir dans l'histoire.
Eh bien justement, comment voit-on cette intervention de Dieu?
Eh bien, Dieu n'intervient pas seulement comme le Créateur, mais il intervient comme un Dieu qui vient faire justice. Devant le mal qui opprime, dans le fond, l'humanité, et c'est un mal que l'humanité elle-même produit, les croyants disent « Dieu ne peut pas rester impassible s'il est un Dieu bon et puissant. Ce Dieu-là doit réagir en face du mal, et il va donc intervenir. » Alors comment Dieu va-t-il intervenir? Eh bien, ça peut être, bien sûr, en faisant venir des cataclysmes naturels, comme un déluge, où les malfaisants, les mauvais vont périr. Mais ça peut être aussi au cours d'une guerre où il va donner la victoire au camp des justes, les justes qui, avec l'aide de Dieu, vont pouvoir exterminer le camp des mauvais. On se souvient que dans la dernière guerre mondiale, les Allemands appliquaient ça à eux-mêmes en disant « Dieu est à nos côtés ». Mais pour illustrer cette espérance, cette intervention de Dieu, on peut lire des passages de l'Exode, c'est au chapitre 15. Le premier, ce texte de l'Exode, raconte le passage de la mer Rouge par les tribus juives qui fuient l'Égypte.
Qui est comme toi, Seigneur, éclatant de sainteté, redoutable en ses exploits, opérant des merveilles. Les peuples frémissent, la terreur et l'effroi tombent sur eux. Le cheval de Pharaon a pénétré dans la mer avec ses chars et ses cavaliers, et le Seigneur a fait revenir sur eux les eaux de la mer.
Oui, sans doute que beaucoup de nos auditeurs vont se souvenir de ce chant qu'on utilise pour la veillée pascale. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire, il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Eh bien, si Dieu intervient ainsi dans l'histoire, c'est qu'il veut donc la mener à son terme. Et le terme de l'histoire, ça ne peut être que la victoire de Dieu sur toutes les forces du mal. Et une victoire qui ne concernera pas seulement le peuple de Dieu, mais toute l'humanité. Alors cette victoire, on peut dire qu'elle marque non pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Un monde où le mal paraît dominer, et pour au contraire faire venir, faire advenir un monde nouveau où Dieu et sa règle de vie vont dominer. Écoutons un texte du prophète Michée, c'est au chapitre 4.
En ce jour-là, il arrivera que le Seigneur sera juge entre des peuples nombreux. Martelant leurs épées, ils en feront des socs, et de leurs lances, ils feront des serpes. On ne brandira plus l'épée nation contre nation, on n'apprendra plus à se battre. Ils demeureront chacun sous sa vigne et son figuier, et personne pour les troubler.
Voilà la description d'un monde paradisiaque d'une certaine manière. Et reprenons aussi, écoutons au chapitre 60 d'Isaïe ce très beau texte.
On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, de dévastation et de désastre sur ton territoire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne disparaîtra pas. Car le Seigneur sera pour toi une lumière perpétuelle. Ton peuple ne comptera que des justes. À jamais, ils posséderont le pays. Jésus a-t-il repris ce message d'un grand jour de Dieu qui sera le terme du monde?
Oui, dans la bouche de Jésus, le terme « jour de Dieu » devient très souvent « jour du Fils de l'homme ». Mais pour décrire ce jour-là, Jésus reprend certaines images de la Bible. On peut lire les versets 29 à 31 du chapitre 24.
Aussitôt après, la détresse de ces jours-là apparaîtra dans le ciel l'enseigne du Fils de l'homme. Tous les peuples de la terre se frapperont la poitrine. Ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel dans la plénitude de la puissance et de la gloire. Il enverra tous ses messagers et ils rassembleront ses élus.
Voilà, on voit quand même qu'il y a une différence avec les textes précédents. Ici, la plénitude de la puissance et de la gloire, ce n'est plus les armées avec les forces de la guerre. Il enverra au contraire tous ses messagers, c'est-à-dire ce que nous appelons les anges. La puissance et la gloire de Dieu, pour Jésus, ce n'est pas une force qui écrase les méchants, c'est au contraire la manifestation de la grandeur, de la profondeur, de l'amour divin, un amour qui veut convertir le cœur par la force du pardon. Souvenons-nous du Père et de son Fils prodigue. Jésus donc nous conduit dans cette espérance. Vous tous qui souffrez de l'injustice, vous tous qui souffrez des persécutions ou de toutes les dominations possibles, gardez confiance. Dieu va donner la victoire au Fils de l'homme et à tous ceux qui vont être rassemblés par le Fils de l'homme.
Pourquoi Jésus a-t-il choisi de se présenter comme le Fils de l'homme?
Eh bien, dans le livre de Daniel, il faut remarquer que le Fils de l'homme n'est pas seulement un personnage humain, une personne humaine, mais c'est ce qu'on appelle un peu une personne morale, c'est-à-dire qu'il représente tous les saints, c'est-à-dire tous les fidèles de Dieu. En effet, c'est intéressant. On trouve dans ce chapitre 13, dans ce chapitre 7, au verset 14 et au verset 27, deux formulations. Au verset 24, on dit « Au Fils de l'homme est donné la souveraineté, la gloire et la royauté ». Et au verset 27, on dit « La royauté, la souveraineté et la grandeur sont données au peuple des saints du Très-Haut ». Ça veut donc dire que le Fils de l'homme est celui qui réunit en lui tous les fidèles de Dieu. C'est le peuple des saints qui est associé au Fils de l'homme. On peut penser à la vision de Paul qui parle du corps du Christ. Jésus est la tête de ce corps et nous, nous sommes les membres. Redisons encore que le triomphe du Fils de l'homme, ce n'est pas le triomphe par la force des armées, par les cataclysmes, mais c'est le rassemblement de tous les humains dans la paternité de Dieu. Dans la bouche de Jésus, on ne trouve pas les images d'un Dieu guerrier. La victoire finale du bien sur le mal, c'est celle d'un Dieu tout aimant, qui a supporté le mal avec la patience de celui qui aime. Mais finalement, c'est fort dans la conscience de Jésus, c'est l'amour qui triomphera. L'amour est plus fort que la puissance de l'argent, l'amour est plus fort que la volonté de puissance et de domination, l'amour est plus fort que toutes les violences physiques et verbales, l'amour est même plus fort que la justice doit être dépassée dans la générosité et dans le pardon. La charte de ce règne de Dieu, Jésus nous l'a donnée et nous appelons ça le sermon sur la montagne qui commence par les béatitudes et relisons quelques-uns des grands thèmes de cette charte du règne de Dieu au chapitre 5 de Matthieu, le verset 20 et dans Luc, le verset 35 du chapitre 6.
Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'êtes pas vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Aimez vos ennemis, faites du bien. Vous serez fils du Très-Haut, lui qui est bienfaisant avec les ingrats et les mauvais. Vous, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.
Voilà ce que Jésus propose comme étant le grand jour du Fils de l'homme, le triomphe du Fils de l'homme sur les forces du mal, le triomphe du Fils de l'homme et de tous ceux qui vont être unis à lui, réunis en lui. C'est l'amour, l'amour même des ennemis, c'est la miséricorde, c'est la bonté généreuse.
Oui, cependant, Georges, cette vision du monde est-elle vraiment réaliste? La justice est déjà difficile, mais la bonté sans exclusion ni condition, là...
Oui, ce n'est certainement pas facile. Mais je pense que c'est quand même réaliste d'une certaine manière. Et j'appelle, pour défendre cela, un sociologue québécois, Jacques Godbout, qui n'est pas un théologien et qui ne parle pas de Dieu, mais qui a publié en 1992 une étude qu'il a intitulée « L'esprit du don ». Ceux de nos lecteurs qui ne peuvent pas se reporter à ce livre peuvent en tout cas trouver dans la revue Notre-Dame, le numéro de novembre 95, une très bonne entrevue de Jacques Godbout. Et Jacques Godbout y dit justement sa conviction que la gratuité, et la gratuité dans le fond c'est le don, est la chance, dit-il, de notre société moderne. Pourquoi? Eh bien parce que le don est le seul qui peut tisser des liens vrais entre des personnes. Lorsque l'on est dans un rapport de justice, dit-il, cela nous dispense d'établir un rapport personnel. Il s'agit donc de dépasser la justice, non pas de la délaisser, mais de la dépasser. La justice, elle, est basée sur le donnant-donnant, on rend à chacun selon son dû, selon ses actes. Eh bien, il donne d'ailleurs une des exemples, et notamment dans le couple. Godbout dit qu'un couple qui vise l'égalité dans l'ensemble de ses échanges, donc qui vise une certaine justice, est un couple dont la dynamique l'entraîne vers la rivalité permanente et même, dit-il, vers la rupture. Eh bien, pour Jésus, c'est effectivement cette bonté généreuse, ce don, et ce don de soi-même jusqu'au don total de soi, c'est cela qui va sauver le monde, c'est cela qui va achever la construction d'un monde tel que Dieu le veut. Et pour aller jusqu'au bout de la pensée de Jésus, eh bien cette bonté généreuse, Dieu se propose de la vivre avec nous. Et cela dans le quotidien le plus humble. Le disciple de Jésus doit donc être en ardente espérance de ce terme du monde, de cet achèvement du monde. Or non pas, il ne s'agit pas d'attendre la fin du monde comme un événement purement étranger, un événement qui viendrait, comme par magie, dénouer le drame de l'humanité pécheresse. Non, notre espérance engage au contraire à travailler avec force, à la fois pour plus de justice, mais aussi pour plus de gratuité. La gratuité à l'intérieur de la famille, dans le couple, entre les parents et les enfants, la gratuité dans la société, et donc dans l'attention à aider ceux qui sont mal pris. Et là, il faut bien le dire, ça va à l'encontre de toute cette vision néolibérale de l'heure actuelle, où on ne vise que la performance, où l'on se moque pas mal de tous ceux qui sont des malpris. C'est la gratuité qui va jusqu'au don de soi. Et là, j'appelle le français Claude Lelouch, cinéaste, pour donner un exemple. Lui, c'est un juif, et il rappelait que sa maman, qui était une catholique, avait épousé la religion juive au moment de son mariage pour être en solidarité avec son mari. On se souvient que cette solidarité était alors un gros risque parce que le nazisme commençait à arrêter et à déporter les juifs dans les camps de concentration. Eh bien, cette solidarité va au-delà de ce que la stricte justice demande. Et en effet, Lelouch illustrait cela en disant « Il n'y a pas de plus grand amour que de livrer sa vie pour ceux qu'on aime », une phrase de l'Évangile. Ainsi donc, André, ce jour du Fils de l'homme, c'est moins la fin de l'histoire que son accomplissement. C'est moins la fin du monde que la finalité du monde, comme on peut dire qu'une plante est la finalité de la graine, ou comme on peut dire qu'un fruit, c'est la finalité de la fleur. Ce fruit se trouve déjà tout entier dans la fleur. La graine, elle est déjà, la plante plutôt, est déjà tout entier dans la graine. La fleur ne s'épanouit que pour devenir fruit. Eh bien, le monde n'existe que pour devenir le monde de Dieu, le royaume de Dieu.
Georges, Jésus a-t-il dit quand ce jour de son retour glorieux arrivera?
Oui, autrement dit, est-ce que Jésus nous a dit quand viendra le jour où la plante surgira vraiment de la graine, où la fleur aura donné son fruit? Eh bien, Jésus affirme avec force que la date de ce jour n'est connue que de Dieu. Écoutons ce qu'il en dit, c'est au verset 36 du chapitre 24.
Au sujet de ce jour-là et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, sinon le Père seul.
Oui, et en disant cela, Jésus est tout à fait dans la ligne des textes juifs de son époque, ou de l'époque qui a précédé, comme les textes d'Esdras et ceux d'Habacuc que nous pouvons aussi entendre.
Voici, Seigneur, tu m'as fait connaître un grand nombre de signes qui doivent arriver à la fin des temps, mais tu ne m'as pas fait connaître en quel temps ils se produiront. Dieu dit à Habacuc d'écrire les choses qui arriveront à la dernière génération, mais la consommation du temps, il ne la lui fit pas connaître. Tous les temps de Dieu arriveront lors de leur terme, conformément à ce qu'il a décrété à leur sujet dans les mystères de sa prudence. Le temps ultime sera de longue durée et dépassera tout ce qu'ont dit les prophètes, car les mystères de Dieu sont merveilleux.
Oui, on ne sait pas donc le jour, et cela va à l'encontre de tous ceux qui prédisent des dates pour la fin du monde.
Mais que doit faire le disciple de Jésus en attendant sa venue?
Eh bien, ce qui est clair, en tout cas, c'est qu'on ne doit pas attendre la fin du monde en étant passif. Il faut au contraire travailler à la venue de ce jour. Y travailler par notre capacité de vivre du don et de la gratuité. Y travailler aussi en étant attentif à tous les gestes de bonté qui se vivent et qui souvent se vivent secrètement et humblement. Le chrétien, le disciple de Jésus, sait que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre et qu'il transforme les cœurs humains qui l'accueillent, que ces cœurs d'ailleurs soient des cœurs de croyants ou de non-croyants. Tant que nous sommes vivants, nous ne sommes ni définitivement bons, ni foncièrement méchants, nous sommes des êtres humains capables à la fois du pire, bien sûr, mais aussi du meilleur. Le disciple de Jésus n'est donc pas un être pessimiste ou optimiste, il est appelé à devenir un être d'espérance. Et cela, nous devons construire ce monde nouveau dans le quotidien de notre vie. Jésus dit « Deux seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé ». Est-ce que ça veut dire qu'il y aura 50% seulement de l'humanité qui sera accueillie dans le royaume? Non. Dieu ne fait pas de référendum. Je pense qu'il faut plutôt voir cela comme il y a en chaque humain, justement, cette double option, cette double possibilité. Être avec Dieu dans la bonté ou être sans Dieu, sans justice, sans amour. Ou bien l'amour nous conduit à la communion, ou bien l'égoïsme nous conduit à la solitude. Ou bien l'amour nous permet d'accueillir Dieu dans notre vie, on sera pour toujours avec lui. Ou bien l'égoïsme nous aura fermés aux visites de Dieu et nous serons à jamais éloignés de lui.
Mais encore là, est-ce que notre texte ne veut-il pas nous faire peur? La venue glorieuse du Fils de l'homme est comparée à celle d'un voleur.
Je pense que l'image du voleur, ça veut dire que c'est Dieu qui décide de nous visiter. C'est pas nous qui proclamons les visites de Dieu. Et cela, je pense que nous avons beaucoup de difficultés à le comprendre. Donnons peut-être deux exemples pour terminer. Le premier est celui de cette maman qui donnait bien du temps et de son cœur dans une résidence qui accueille des gens qui vivent avec le sida. Et voilà qu'un matin, elle voit venir son propre fils lui dire qu'il est séropositif et qui lui révèle son orientation sexuelle. Eh bien, ce matin-là, la visite de Dieu la dérangeait jusqu'à ce qu'elle accepte d'aimer sans condition.
Ou bien ce soir d'hiver où j'ai vu la roue avant de ma voiture tomber dans un trou d'homme dont le couvercle avait été enlevé et que la neige recouvrait. Je suis allé chercher de l'aide chez les amis que je venais de quitter à quelques centaines de pieds de là. Et quand je suis revenu, deux jeunes, à veste de cuir et à chevelure de punk, attendaient près du véhicule. Alors, ils nous ont donné un coup de main, ont retrouvé le couvercle du trou d'homme et l'ont replacé. Puis, ils ont disparu dans la poudrerie. Ce soir-là, les anges de Dieu, les fils d'hommes, avaient revêtu leur veste de cuir.
C'est pourquoi, soyez prêts, car c'est à une heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme vient.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
256-4110 ou utilisez notre numéro de télécopieur 256-1106.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Luc Chandonnet.
À la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.